Yariv Cazin, marque-page. Merci à Lucas à la technique et je vous rappelle que Fidèle a une tradition qui commence à s'installer dans ce magazine marque-page. Mais il y a des parties, des vieux trucs qu'on garde de ces années de formation, la thèse, antithèse, synthèse, alors toujours 3-4 parties dans l'émission, mais ça permet de s'y retrouver. Alors nous démarrons en première partie de l'émission avec Raymond Huys qui a plein de choses à nous raconter à la fois sur lui-même en tant qu'auteur. Il évoquera aussi la cour de l'imaginaire. La cour de l'imaginaire, je vous rappelle que c'est demain, après-demain, samedi 7 novembre 2015. Mais il va vous en dire beaucoup plus que moi. Et puis, dans une deuxième partie de l'émission, je parlerai de Jean-Marie Drault. C'était un grand bonhomme qui est décédé. Il était né à Nancy, il est décédé en septembre dernier. Puis s'il reste un peu de temps, il y aura la rubrique en vrac. En attendant, rencontre avec Raymond Huys. Raymond Huys, bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Marque-Page. On va évoquer tout d'abord avec vous l'auteur que vous êtes, avec dans votre besace, je crois, déjà un certain nombre de romans, de nouvelles qui sont toutes publiées. On verra avec vous, on peut les trouver. Alors, vocation d'auteur, vocation tardive, c'est quelque chose qui vous a toujours taraudé quand vous étiez petit ?
Non, justement, je connais beaucoup de gens qui écrivent depuis l'âge de 14 ans. Moi, franchement... J'ai toujours été un grand lecteur, même si je n'ai pas une formation littéraire. J'ai plutôt tendance à avoir une formation plutôt, parascientifique. J'ai fait des études de géographie. Mais j'ai commencé à écrire, en gros, à l'âge de 40 ans, quoi.
Oui.
Donc, c'est, je crois que dans l'Église catholique, c'est ce qu'on appelle les vocations tardives.
Oui, enfin, bon.
Et oui, c'est comme ça. Je n'avais pas la moindre intention d'écrire quoi que ce soit avant cette époque-là. Et ça a commencé. Ça a commencé par des nouvelles. J'ai commencé à écrire des nouvelles. Et j'ai eu la chance aussi d'être publié assez rapidement. Ce qui m'a encouragé, sans doute, parce que l'édition, c'est souvent un long chemin plein d'embûches. Et j'ai eu la chance d'avoir mes premières nouvelles publiées. Alors, paradoxalement, ça a commencé au Québec, dans une revue qui s'appelait Imagine. Ensuite, j'ai été publié en Belgique. Et j'ai même une nouvelle publiée dans une anthologie faite par Stéphanie Nico en Roumanie, pour l'anecdote. Et j'ai fini quand même par être publié en France dans des revues comme Galaxy, etc., qui se sont créées à ce moment-là, dans les années 90. Donc c'est un cheminement assez curieux. Et puis ensuite, j'ai réussi à faire publier ces nouvelles en recueil. Et je me suis mis... Le phénomène s'est entretenu. Et j'ai fini aussi également par publier des romans, ceci dans des genres très, très différents, quoi.
Alors, vous évoquiez là, on va revenir là-dessus. Vous évoquiez d'abord ces publications en dehors de la France. C'est en gros, c'est le genre doit faire ses preuves à l'étranger avant d'être publié en France.
J'ai écrit des nouvelles au départ qui sont révélées être des nouvelles de science-fiction. En fait, à l'époque, j'avais pas une très grande idée de ce que pouvait être la science-fiction par rapport au fantastique, etc. Et je raconte toujours cette anecdote, mais enfin, les auditeurs de RCN l'ont peut-être déjà entendu, mais enfin, j'avais publié donc cette nouvelle au Québec, et dans une revue qui s'appelle Imagine, et qui était en relation avec Stéphanie Nico, qui habitait Nancy à l'époque, et c'est par le biais des Québécois que j'ai connu Stéphanie Nico, quoi. C'est assez paradoxal aussi, il habitait un jet de pierre de chez moi, mais enfin bon.
Ouais.
Et donc, je lui ai amené des textes, elle les a lus, elle m'a fait 3 tas, en me disant, ça c'est de la science-fiction, ça c'est du fantastique, ça c'est de la littérature générale. C'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à apprendre ce qu'étaient les genres littéraires, ce dont je me... qui m'était assez indifférent.
Ouais.
Donc, du coup, je me suis un peu spécialisé un peu dans la science-fiction. Et donc le phénomène s'entretenant, j'ai écrit des nouvelles de science-fiction, d'autres de fantastique, et je les ai adressées à des revues spécialisées qui les ont publiées, quoi.
Dans les rédactions successives auxquelles vous avez procédé, est-ce que vous y avez des influences de vos lectures de jeunesse, d'adolescence et d'adultes?
Je pense à
Jules Verne, par exemple, ou ensuite à des gens très différents comme Asimov ou d'autres.
Non, à une certaine époque, j'étais pas complètement ignare en science-fiction. J'avais lu des gens comme Asimov ou dans le fantastique Lovecraft, mais je ne pense pas que ça m'ait vraiment influencé. À vrai dire, ça, les nouvelles ont commencé par des rêves. Hein, donc le dernier ouvrage, d'ailleurs, en porte des traces, puisque Les Gardes Rêves, c'est un recueil de certaines de ces nouvelles. Et puis le phénomène s'est auto-entretenu. Je suis passé à des œuvres de pure création. Mais bon, mes goûts littéraires sont relativement classiques. Ça fait frémir d'horreur les amateurs de science-fiction, mais bon, j'aime beaucoup Chateaubriand. J'ai lu tout Chateaubriand à une certaine époque, même l'illisible. Et ça va de Chateaubriand à Céline, par exemple, dans mes goûts littéraires. Donc, j'ai découvert aussi la littérature chinoise à une certaine époque. Oui. Ce qui a donné un roman, L'île aux immortels, la littérature chinoise en traduction, je précise. Donc, je n'avais pas d'acquaintance très précise avec les littératures dites de l'imaginaire au départ, quoi.
Vous venez de dire que Chateaubriand, ça fait un peu tâche dans votre monde littéraire à vous, là. Ça veut dire que c'est un genre, la science-fiction ou la fantasy, qui est très cantonné, un peu secte, finalement, par rapport aux autres types de littérature?
Ben, c'est ce que j'ai découvert, parce qu'en fréquentant finalement de fil en aiguille le monde de la science-fiction, j'ai fréquenté des auteurs, mais également ce qu'on appelle des fans de science-fiction, c'est-à-dire des lecteurs de science-fiction qui ne lisent que ça, qui n'ont jamais lu que ça, et qui ne veulent pas lire autre chose, quoi. Donc effectivement, Chateaubriand, ça ferait un peu tâche dans ce milieu. Bon, on peut pas dire que ça fonctionne comme une secte, mais enfin, c'est un peu un milieu quelquefois un petit peu fermé, un petit peu exclusif. Et je me sens assez marginal dans ce milieu, parce que on verra ce que j'ai écrit par la suite. Je n'ai pas écrit, loin de là, que de la science-fiction.
En dehors de la science-fiction, alors vous avez écrit quoi ?
Alors, essentiellement des nouvelles.
Des nouvelles, oui.
Des nouvelles qui ont été publiées dans deux recueils. Et actuellement, c'est même pas en préparation, il est en lecteur chez des éditeurs, un roman jeunesse de science-fiction et une uchronie également que je viens de terminer l'année dernière.
Une uchronie, oui. Oui, ça c'est... Moi c'est, personnellement, c'est un style, c'est un genre qui me fascine, l'uchronie.
Oui, ben, j'ai écrit quelques nouvelles uchroniques comme ça. Bon,
Il y a un film qui va sortir, une adaptation de Tardy, qui est une belle uchronie, là, un dessin animé, va sortir au mois de décembre.
Oui, oui.
Ah, oui, c'est... Dans l'uchronie, qu'est-ce qui vous plaît ? C'est le fait de confronter deux époques qui peuvent de toute façon, par définition, ou des personnages qui n'ont jamais pu se rencontrer, et d'imaginer que si elles se rencontraient, ça fait pchit, ça fait un feu d'artifice ?
Oui, oui, oui. Ben, c'est-à-dire que j'ai toujours été beaucoup intéressé par l'histoire également. Donc,
voilà, oui.
À partir de l'histoire, il est intéressant les historiens trouvent ça complètement ridicule, et effectivement, d'imaginer ce qui serait passé si tel événement s'était déroulé différemment. Et j'ai écrit une nouvelle comme ça qui s'appelle Morne Plaine, et c'est un des classiques de l'Uchronie, où j'imagine que Napoléon a gagné la bataille de Waterloo, et j'imagine le monde 30 ans plus tard avec une rencontre avec Stendhal, un personnage imaginaire qui rencontre Stendhal, mais qui lui est toujours consul à Civita Vecchia, et qui à la fin écrit la Chartreuse de Parme. Mais il l'écrit telle qu'il l'a écrite réellement. C'est-à-dire qu'il en écrivant dans son haut du chronique, il écrit une chronique, il le ramène au monde réel. C'est la chute de la nouvelle, par exemple.
Mais finalement, pour rédiger une chronique, soit une nouvelle ou un roman, faut avoir une bonne connaissance de l'histoire, comme vous le signalez, mais il faut aussi avoir une bonne connaissance des auteurs.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut il faut prévoir des personnages réels qu'on projette dans un monde différent de celui auquel ils ont vécu, mais également l'étoffer par des personnages imaginaires, quoi. Sinon, ça devient purement formel. Il faut avoir une bonne connaissance de l'histoire, surtout quand on écrit un roman. Bon, une nouvelle, c'est quand même plus facile. Là, pour la nouvelle Morne Plaine, bon, j'avais lu au moins deux ou trois biographies de Stendhal, plusieurs ouvrages sur la bataille de Waterloo, pour se mettre, disons, dans l'ambiance. Mais bon, c'est facilement accessible, quoi. Le problème, c'est de savoir jusqu'où on va dans l'Uchronie, notamment géographiquement, parce qu'on peut pas, à propos d'un événement ponctuel, refaire l'histoire du monde non plus.
Hein.
Il faut savoir où on s'arrête.
Mais c'est vrai que lorsque l'on lit des textes dans cette catégorie uchronie, ça glisse tellement facilement qu'on se rend pas compte que derrière, ce que vous disiez, il y a une somme de travail immense. C'est trois biographies de Stendhal, par exemple, plus trois, quatre textes sur Waterloo et tout. C'est un sacré boulot de préparation.
Pour celle-là, effectivement, ça m'a demandé beaucoup de travail. Pour d'autres nouvelles qui sont purement imaginaires, beaucoup moins, quoi, si vous voulez. Il faut dire que maintenant, avec Internet, pour la documentation, c'est quand même formidable parce qu'on peut trouver à peu près tout, n'importe où. Et bon, j'ai écrit des choses qui auraient été impossibles à écrire s'il avait fallu aller dans des bibliothèques aux quatre coins de la France. Bon, là, on a une bibliothèque sous les yeux, c'est formidable, quoi.
Alors vous faites des petites fiches? Comment vous faites travailler?
Je prends des notes, ça dépend de l'ampleur de l'ouvrage. Pour une nouvelle, en général, ça ne nécessite pas d'énormes recherches documentaires. Bon, pour un roman, c'est autre chose. Bon, le roman chronique que j'ai écrit, qui est en lecture actuellement, bon, ça m'a demandé quand même pas mal de travail, de recherche. Je fais des fiches surtout sur les personnages, de façon à éviter... les erreurs que le personnage qui avait les yeux bleus au début se retrouve avec des yeux verts à la fin. C'est ce genre de choses qu'il faut éviter.
Transformation génétique,
une cohérence psychologique et physique. Bon, tout ça nécessite un travail de fiche quand même, et puis écrire quand même le scénario. Mais je ne fais pas de ce qu'on appelle des brouillons, j'écris directement.
Vous tapez ou vous êtes encore à la plume papier?
Ah non, je sais plus écrire à la main.
Oui. La science-fiction en France, c'est quand même un genre qui est développé, je pense en particulier chez De Noël, avec des centaines et des centaines de publications depuis plus de 30 ans, plus de 40 ans maintenant. Ça veut dire que vous vous inscrivez dans une tradition de science-fiction plutôt mondiale, plutôt européenne?
Plutôt européenne, hein. Je n'ai... Bon, les science-fictionneux purs et durs en général lisent l'anglais, donc bon, c'est pas mon cas. Je lis des traductions effectivement, mais ça reste une science-fiction. Bon, c'est ce que dit Stéphanie Dicou dans sa préface. Je suis un raconteur d'histoire. Hein, je ne me lance pas dans la hard science ni dans des choses comme ça. Donc ça reste des histoires lisibles. C'est ce qui m'intéresse aussi, par des gens qui ne sont pas forcément des amateurs forcenés de science-fiction. Ça raconte avant tout une histoire, avant de vouloir chercher à démontrer quelque chose. Je méfie beaucoup de la littérature d'idées, non pas qu'il puisse pas y avoir une idée dans un roman ou dans une, mais il ne faut pas que l'idée soit prééminente et que les personnages s'effacent derrière l'idée. Il faut qu'elle vive à travers les personnages, que les personnages aient leur vie propre, indépendamment des idées éventuellement qu'ils véhiculent.
Vous avez utilisé un terme art science.
Ah ben c'est un des sous-genres de la science-fiction, c'est la science-fiction purement scientifique, où on part d'un phénomène scientifique pur et que l'on développe à travers une histoire, quoi.
Oui, je connaissais le hard rock, mais hard science.
Oui, ça existe. Il y a à l'intérieur de la science-fiction une multitude de sous-genres. Bon, que je connais d'ailleurs assez mal, mais enfin que les spécialistes connaissent très bien et manipulent. C'est des concepts que les spécialistes manipulent très bien, quoi.
Est-ce que vous avez le temps, dans votre activité d'auteur, de lire ce qui sort par ailleurs?
Oui, j'aimerais bien. Le problème, c'est que je m'occupe également de tas d'autres choses, notamment de prix littéraires, qui m'obligent à lire des ouvrages, soit des manuscrits, on en parlera pour la cour de l'imaginaire, oui. Mais je m'occupe pour l'instant de trois prix littéraires, donc ça m'oblige à lire un certain nombre d'ouvrages, et c'est vrai que j'ai quelquefois du mal à trouver du temps pour lire les ouvrages qui sortent, quoi. Bon, j'essaie de ménager un petit créneau de temps en temps, mais enfin, c'est pas toujours évident, quoi.
Dernière question que je voulais vous poser avant de parler tout à l'heure dans quelques instants de la cour de l'imaginaire. On parle de science-fiction, on parle de fantasy, il y a des tas de genres différents. Quelles sont les différences entre tous ces styles de littérature?
Alors, actuellement, il y a un déferlement aussi d'un genre qui s'appelle la fantasy.
Oui, la fantasy.
C'est celle qui a la première place en première ligne au Festival d'Épinal, aux Imaginales, et qui a eu tendance un peu à marginaliser la science-fiction et le fantastique. Alors la différence entre les trois, moi j'utilise toujours une image qui a été donnée par Denis Guyot, qui est un spécialiste des genres de l'imaginaire, et il le fait par une image, par une espèce de parabole à propos des chats. Il dit, si vous possédez un chat, et que un matin ce chat, au lieu de se frotter à vos jambes et de se mettre en arrêt devant son écuelle parce qu'il manque de croquettes, s'il parle et s'il vous réclame son petit déjeuner, c'est que vous êtes dans les littératures imaginaires. parce que dans la littérature même réelle, les chats parlent pas.
La littérature même réelle, ça peut renvoyer carrément au conte de fées, là.
Oui, exemple, c'est ça. C'est oui. Ça alors, oui. La différence entre les trois genres, c'est-à-dire que si ce chat vous fait peur, s'il vous fait dresser sur les cheveux sur la tête, et si vous précipitez vers le crucifix le plus proche pour le brandir devant lui, croyant que c'est un suppôt du diable, là, vous êtes vraisemblablement dans le fantastique. Bon, par contre, le chat a des antennes sur la tête, si le fruit de manipulation génétique où il se prétend la réincarnation d'un extraterrestre, vous êtes dans la science-fiction. Et si ce chat vous parle, mais que ça vous étonne pas davantage et que vous le répondez, vous êtes dans la fantasy, parce que dans la fantasy, les chats parlent. Il y a des dragons, ou dans les fables ouais, de la Fontaine, les animaux. C'est la différence un petit peu entre les trois genres, si vous voulez. Alors quelquefois, la différence entre les trois n'est pas toujours évidente. Mais enfin, voilà ce que je réponds quand on me demande quelle est la différence entre les trois là. Moi, la fantasy, ça me branche pas tellement. Les histoires de fées, de dragons, de sorcières, j'avoue que...
Là, on est dans le jeu de rôle, après.
Oui. Bon, je préfère...
Vous êtes toujours dans Marque-Page. Nous sommes toujours en compagnie de Raymond Hisse et toujours Lucas à La Technique. Et avec notre invité, maintenant, nous allons parler de la cour de l'imaginaire. Vous savez que cette manifestation, ce café littéraire, se déroule après-demain, de 16h30 d'après-demain, samedi 7 novembre. Les Arts, de 16h30 à 18h30. Et donc, nous allons découvrir cette manifestation, toujours avec Raymond Hisse. Il m'a bien fait comprendre, moi, en tout cas, la différence entre fantasy, fantastique et science-fiction. Alors, pendant la pause musicale, Raymond, vous expliquiez que la déferlante de la fantasy dans la littérature en France, ça avait mis de côté la science-fiction. Puis je retiens aussi que vous êtes membre de plusieurs jurys littéraires. Et donc, ce café littéraire, c'est un des jurys dont vous êtes responsable.
Oui, c'est-à-dire que la cour de l'imaginaire, c'est en fait, sous un titre assez solennel, est composée de trois personnes, en l'occurrence Nadia, Josette et moi. Nadia étant une écrivaine de science-fiction qui habite l'agglomération d'Ancienne, Josette est mon épouse et donc moi-même. Et à l'initiative donc de Nadia Harley, nous avons créé ce collectif en 2011 et qui visait à rassembler des manuscrits relevant des domaines de l'imaginaire, donc SF, fantasy, fantastique, sans exclusive, et à permettre, en principe, ça s'adresse souvent à des auteurs débutants, même si ce n'est pas exclusif non plus, qui leur permettent d'être édités. Donc on avait passé au départ un partenariat avec un éditeur de Nîmes, les éditions Lacour, qui n'est pas du tout un éditeur de littérature de l'imaginaire, mais qui avait accepté, qui nous avait donné carte blanche pour publier des ouvrages dans une collection. Et du coup, le collectif s'est appelé La Cour de l'Imaginaire, évidemment.
La Cour, là, ça me rappelle quand même, c'est un vieux souvenir, ça, parce que c'est un boulanger qui a créé ça, à Nîmes. Autrefois, c'était revenir au principe qu'on pouvait trouver des livres, il y a très très longtemps, chez les boulangers, etc., etc. Et c'est comme ça que l'idée est partie de Nîmes. Alors, il y a des choses qui ont été écrites sur l'histoire de la Lorraine, par exemple, qu'on trouve également chez La Cour.
Oui.
Et c'est vous êtes enfilé.
Il a un système de distribution et de diffusion assez particulier, c'est-à-dire qu'il est, c'est une dynastie qui remonte à des colporteurs du 18e siècle.
Oui, c'est ça.
Qui se sont transformés en libraires puis en éditeurs. Et il a repris un petit peu la tradition des colporteurs, c'est-à-dire qu'il parcourt la France et il a des dépôts dans des endroits qui ne sont pas forcément des librairies et il fonctionne de cette manière, quoi. Donc c'est un éditeur un petit peu atypique mais qui publie énormément de livres qui republie en général des livres introuvables. Bon, donc avec nous c'était tout à fait différent puisqu'il s'agissait de livres nouveaux dans une collection d'imaginaire. Donc on a commencé cette opération en 2011, donc on a fait un appel à des manuscrits, on a reçu un certain nombre. On s'est aperçu, souvent je savais par les milieux éditoriaux que les éditeurs sont obligés de mettre 90 ou 95% des manuscrits qu'ils reçoivent à la corbeille. Et on s'est aperçu qu'effectivement, c'était toujours le cas. Donc sur la trentaine ou la quarantaine de manuscrits qu'on reçoit, on arrive à en sélectionner un, deux, éventuellement trois qui sont publiables. Au début, on craignait d'être obligé de publier le moins mauvais, mais on s'est aperçu qu'on a trouvé, parmi les publications qu'on a faites, on pourra en faire le détail tout à l'heure, oui. Actuellement on est à 5 titres, des ouvrages qui sont excellents, qui sont dignes d'être publiés, qui font, à mon sens, faire partie des meilleurs ouvrages du genre, et qui ont permis souvent à des auteurs débutants d'être édités pour la première fois.
Et ça fait des tirages de départ.
Alors c'est des petits tirages, c'est un
500 000.
Non, 250.
250.
Oui. 250. Oui, non, mais c'est un petit. Ce sont des petits contrats.
Oui.
Je précise que ce sont quand même des contrats à compte d'éditeur. Il ne s'agit pas de contrats à compte d'auteur. Donc mm-hmm. l'auteur touche ses droits. Le livre peut être réédité. Alors depuis l'an dernier, on a changé de partenariat. On a changé d'éditeur, on a passé un partenariat avec les éditions Nereia, dirigées par Rémi Debord. Qu'on salue en passant, que les auditeurs de RCN connaissent bien. Donc le prochain ouvrage, pour lequel on sélectionne actuellement, sera publié en 2016 par les éditions Nereia. Et les auteurs amateurs qui nous écoutent peuvent encore nous envoyer leurs manuscrits jusqu'au 28 février. Donc on les reçoit actuellement. Tous les renseignements sur le règlement du concours, les tenants et les aboutissants sont sur le site de la Cour de l'Imaginaire, donc www.lacourdelimaginaire.com. La Cour de l'Imaginaire en un seul mot.
Une question sur ce point, dans pas mal de concours littéraires, une exigence est souvent émise, c'est que ce soit la première œuvre d'une auteure ou d'un auteur. Vous occupez pas de ça?
Non, on n'a pas d'exigence à ce niveau. Les auteurs qui ont été publiés jusqu'à présent, il s'agit d'une première édition d'un ouvrage complet, mais c'est souvent des auteurs qui ont publié, comme moi au début, qui ont publié des nouvelles dans des revues ou dans des publications plus ou moins confidentielles, quoi. Mais on sait très bien qu'un auteur professionnel va pas venir chez nous pour un tirage à 250, et c'est pas notre but non plus. Le but, c'est de mettre le pied à l'étrier à un auteur qui n'aurait peut-être pas trouvé sa place dans des éditions plus classiques et disons plus non pas plus exigeante, parce que on trouve pas mal de choses quelquefois assez médiocres, même chez de grands éditeurs. On a une exigence quand même de qualité qui fait que je pense qu'on n'a rien à nous reprocher de ce côté-là.
Ce samedi, donc, 7 novembre, de 16h30 à 18h30 au Lézard, 99 Grand Rue à Nancy. Alors, pour ceux qui sont fâchés avec les chiffres, c'est facile à trouver, c'est en face du musée Laura. Donc, quatrième édition, je viens de compter les intervalles sur mes doigts, c'est la quatrième édition de la Cour de l'Imaginaire. Et donc, jusqu'à présent, fort logiquement, vous avez attribué 3 prix.
Oui.
Voilà.
On ne l'a pas attribué à 2015. Parce que tout simplement, on n'a pas trouvé d'ouvrage d'assez de bonne qualité pour le faire. Ouais. Donc on a préféré sauter une année plutôt que de publier quelque chose de médiocre. Donc on a des exigences quand même assez dures, quoi, de ce point de vue-là. Donc on espère qu'en 2016, ça marchera, on trouvera un auteur. Donc là, le 7 novembre, on a invité le lauréat du prix La Cour de l'Imaginaire 2014, Éric Lusseux.
Pour les tambours du vent.
Pour les tambours du vent, oui. Mais qui ne parlera pas que de son ouvrage, parce qu'il était déjà venu l'an dernier pour en parler. Mais il parlera avec... l'émission sera animée également par Pierre Stolz, qui est un écrivain de science-fiction, qui est lorrain, qui a déjà publié de nombreux ouvrages depuis très longtemps.
Il y a eu le prix Fantastique Art Gérardmer, entre autres.
Fantastique Art Gérardmer, le prix René Aîné,
ouais, de la science-fiction.
Etc. C'est un auteur professionnel, hein, donc spécialiste dans la science-fiction, mais également dans le fantastique. Et les deux auteurs on leur a donné un thème de départ, dans le déferlement actuel de la fantasy, quelle place encore pour la science-fiction et la fantasy. Mais ils parleront aussi de leurs ouvrages, et leurs ouvrages seront d'ailleurs en vente ce jour-là.
Éric
Lusseux,
oui, L-Y-S-O, avec un trait dans le haut, E, il est français, il est d'origine...
Non, il est d'origine nordique, norvégienne, je crois, mais enfin, il est français. Il est professeur de littérature comparée à l'université de Clermont-Ferrand.
Oui. Et donc c'est un spécialiste du fantastique, Pierre Stolt, qu'on retrouvera samedi, un écrivain de science-fiction. Donc on va imaginer que ça va donner un débat très très dense et très chaud là, parce que ça va être deux tendances qui vont s'opposer là.
Oh, je ne pense pas à ce point-là, parce que c'est des gens qui ne sont pas sectaires, Pierre Stolz non plus. Il a écrit aussi des ouvrages qui sont à la limite du fantastique et de la science-fiction quand on regarde sa bibliographie. Mais on parlera de fantastique, de science-fiction et pourquoi pas même de fantasy, quoi.
Quels sont les les attentes des lecteurs dans ces domaines-là, c'est des lectrices, des lecteurs qui ont la même exigence vis-à-vis de leurs auteurs que d'autres genres, de leurs auteurs préférés. Comment se passent ces rencontres entre auteurs et personnes qui assistent à cette cour de l'imaginaire?
Les lecteurs potentiels ont la parole effectivement, mais je pense que bon, c'est difficile à dire. Moi, j'ai des contacts aussi avec des lecteurs dans les salons que je fais pour vendre mes ouvrages. Et, je pense que les gens recherchent peut-être une littérature d'évasion, mais une littérature qui soit quand même exigeante et qui ne recherche pas forcément la facilité, quoi. La difficulté, c'est quelquefois, quand on voit la taille des livres, beaucoup de lecteurs cherchent des ouvrages de 800 pages pour en avoir pour leur argent. Moi, je dis toujours que les ouvrages de 800 pages, jusqu'à présent, j'étais incapable d'en écrire. Et que quand on les lit, il y en aurait quelquefois 150 en moins, on ne s'en apercevrait pas, quoi. Donc,
et là, vous êtes gentil en disant 150 en moins.
Oui, oui, oui. Tout dépend des ouvrages. Mais bon, je sais, ayant commencé par les nouvelles, j'ai tendance à faire dans la concision quand même. Ouais. Et à ne pas m'étaler dans des descriptions inutiles. C'est-à-dire tous les défauts qu'on retrouve dans les manuscrits qu'on reçoit, c'est des gens qui font des descriptions inutiles, des digressions, etc. Donc je pense qu'il faut quand même une certaine rigueur, il faut rester centré sur son sujet et le suivre au début jusqu'à la fin sans faire de digressions ou de descriptions inutiles, quoi. Bon, je pense que les lecteurs cherchent ça aussi quand ils apprécient un ouvrage.
Quelle est la place de ce café littéraire, donc, qui se rappelle, je le rappelle, à ceux qui prendraient l'émission en route, la cour de l'imaginaire, dans l'ensemble des cafés littéraires qui existent peut-être en Lorraine? Il y en a d'autres, par exemple, vous savez pas?
Non, je n'en connais pas. Il en existe peut-être d'autres, mais je ne sais pas. On a voulu faire ça pour faire de la publicité pour le prix, etc. Mais surtout, on voulait suivre nos auteurs, quoi. Et de façon à ce qu'une fois, parce que c'est facile de décerner un prix, on décerne un prix et puis ça s'arrête là. On voulait quand même suivre nos auteurs, les faire se rencontrer, etc. Enfin, faire qu'il y ait autre chose qu'une démarche purement attributive. Et on a eu la chance aussi de, je pense à l'une de ces auteurs, Hélène Lally. C'est une auteure qui nous avait envoyé un manuscrit, par exemple, qu'on lui avait refusé. D'habitude, quand on envoie une lettre refus standard, de façon à éviter les discussions inutiles, avec elle, on s'est senti obligé de lui téléphoner pour lui expliquer pourquoi. Et on lui expliquait qu'on l'avait refusé, non pas parce que son manuscrit était médiocre, mais parce qu'au contraire, c'était le meilleur qu'on avait reçu. Manque de chance, c'était de la littérature générale et ça ne nous intéressait pas. Et on l'a encouragé à écrire, on lui a dit la façon dont vous écrivez, si vous arrivez à nous ressortir un manuscrit relatif aux littératures de l'imaginaire, on serait content de l'avoir. Et ça l'a encouragée à écrire. Elle était un peu découragée d'envoyer des manuscrits à des éditeurs. Et du coup, l'année suivante, elle nous a sorti un manuscrit de nouvelles que nous avons publié l'année suivante et qui était excellent, quoi. Donc, ça nous a permis quand même de permettre à des auteurs, découragés un petit peu par les réponses standards des éditeurs, de continuer à écrire. Et je pense qu'il en est de même pour les autres auteurs que nous avons sélectionnés.
Le prix s'appelle comment, là? Le prix de la Cour de l'Imaginaire, tout simplement?
Oui, alors il s'appelait le prix La Cour de l'Imaginaire, oui. Par référence aux éditions d'Acour. Donc maintenant, à partir de 2016, il va s'appeler tout simplement Imaginerea, quoi, évidemment. En référence aux éditions Nerea, quoi. Mmh. Mais le style, la procédure ne vont pas changer, quoi.
On raconte toujours, il y a toujours des histoires extraordinaires. D'ailleurs, elles ont été publiées, des rapports entre les auteurs et leurs éditeurs. Alors, quelquefois, ça donne des choses extraordinaires, du genre, si vous méditez pas, je viens vous exploser chez vous, ou des choses comme ça. C'est la même chose, là, dans vos échanges avec les auteurs?
Non, quand même pas. Mais on n'a jamais eu de problème avec les refus.
Oui.
Il faut dire, bon, on met les choses au point au départ, on n'est pas un atelier d'écriture. C'est-à-dire que tous les manuscrits qu'on a publiés des auteurs que j'ai cités, que ce soit Yvette Omerand, Brigitte Dujon, Éric Lusseux ou Sonia Kemner, on a fait des réécritures quand même. ne serait-ce que des coupures, par exemple, quand il y avait des longueurs, etc., ou des choses un petit peu bizarres, on ne les a pas prises, disons, brutes de décoffrage. Mais c'était des manuscrits qui étaient publiables quand même. Mais ce qu'on reçoit aussi quelquefois, c'est des choses totalement impubliables où il faudrait un travail de réécriture intégrale. Cela, c'est pas notre affaire, on les refuse. Donc on envoie une lettre refus standard, on n'a jamais eu de problème jusqu'à présent, quoi.
Sacré boulot, hein, le boulot de relecture, de correction.
Ah oui, ben de lecture déjà au départ.
Oui.
Bon, maintenant, on commence à pratiquer ce que font les éditeurs, c'est-à-dire les lectures au pouce, quoi. C'est-à-dire qu'on lit les 30 premières pages. Si on voit que c'est vraiment en dessous du panier, on feuillette et on lit les 30 dernières, et puis c'est terminé, quoi.
Ça s'appelle la lecture au pouce.
Oui, la lecture au pouce, quoi. Sinon, on persiste et on lit, bien sûr. Le travail du texte est un travail important. On veut obtenir quand même un manuscrit, un travail qui soit propre, c'est-à-dire éviter, bon, bien sûr, les fautes d'orthographe, mais également les coquilles, etc. Donc, c'est moi qui m'occupe de ce travail en général. C'est un travail très minutieux qui est assez ingrat, que je pratique pour mes ouvrages aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Hein.
Vous faites parler par quelqu'un d'autre?
Si. Je le fais relire par Josette. Et je me sers aussi maintenant d'un correcteur qui est pas seulement orthographique, mais même un correcteur sémantique, linguistique.
Oui, il y a des bons logiciels là.
Oui. Il y a de bons logiciels. C'est fait par des Québécois d'ailleurs, celui que j'utilise d'ailleurs, et qui est très intéressant pour ça. Et à la fin, pour le dernier travail, je relis le manuscrit en commençant par la fin. Je remonte les pages en commençant par la dernière. C'est-à-dire qu'on n'est pas pris par l'histoire. Surtout quand c'est son propre ouvrage, parce que bon, là, on le connaît par cœur. Et là, on voit des erreurs, des incohérences, des coquilles, etc. Et on finit par obtenir un manuscrit qui est propre. Mais le travail de correcteur chez un éditeur, c'est un travail, il y a des gens qui sont payés pour ça, qui ne font que ça. Hein. C'est un travail spécifique chez les éditeurs sérieux de correcteurs de manuscrits. Il le décortique, le tripote, etc. C'est un travail considérable pour obtenir un manuscrit propre. Mais beaucoup d'éditeurs, même parmi les plus grands, ne le font plus. Et on trouve chez de grands éditeurs, dans des collections prestigieuses, des coquilles et des fautes d'orthographe. Ça nous est déjà arrivé de l'en en trouver. Je vais pas donner de nom parce que...
Mais, c'est pas l'objet d'émission.
des plus grands éditeurs, on trouve tout simplement parce qu'ils ne veulent pas dépenser de l'argent pour payer des correcteurs, c'est tout. Hein.
Mmh. Cette manifestation de samedi, je rappelle qu'elle a lieu au Lézard, 99 Grand Rue à Nancy, samedi 7 novembre, cet après-demain de 16h30 à 18h30, est réalisée en partenariat avec RCN, bien sûr, avec les éditions Nerea, bien évidemment. Et puis, je vois un autre partenaire qui s'appelle Falilor.
Alors, Falilor, c'est une fédération d'associations d'auteurs lorrains, qui a été créé il y a 2 ou 3 ans et qui permet de mener des actions communes pour promouvoir les auteurs lorrains à travers différentes associations qui en sont membres. Alors ça a été fondé par créé essentiellement par Charles Lancé, qui est président de la DIL, l'association de défense et d'illustration des littératures lorraines, dont je fais partie d'ailleurs. Et donc Falilor a été créé pour permettre d'avoir un partenaire vis-à-vis des institutions et
leur conseil régional,
etc., pour donner leur place aux auteurs lorrains dans des manifestations comme le Livre sur la Place. Mais Falilor organise également à Metz un salon littéraire, les Estivales de Metz, chaque année au mois de juin depuis 3 ans maintenant, avec les différents auteurs lorrains faisant partie de ces associations.
À part ce café littéraire, où est-ce qu'on peut rencontrer dans d'autres salons vos auteurs et vous-même?
Ben je participe à pas mal de salons littéraires en Lorraine, il y en a beaucoup. Bon, il y a évidemment le salon de Villers. De Villers-lès-Nancy organisé
au mois de janvier, c'est ça, oui.
Pardon.
Au mois de janvier, il a lieu.
Non, cette année, il a au mois de février, le dernier week-end
de février.
Je crois que c'est le 27 ou le 28, dernier 16, week-end.
Ouais.
Sinon, beaucoup de bibliothèques ou de municipalités organisent des salons dans l'année. Il y en a énormément en Lorraine. À la fin du mois prochain, il y a un salon à Lunéville. Lune et Livre, je crois que c'est... je n'aurais pas donné de date pour être sûr de ne pas me tromper, mais enfin, c'est un des derniers week-ends du mois de novembre. Il y a bien les grands salons, il y a le livre sur la place, oui, bien sûr, dans lesquels les auteurs leur ont une petite place. Il y a l'été du livre à Metz, mais duquel les auteurs lorrains ont été un petit peu éjectés. Donc c'est pour ça aussi qu'on a organisé ce salon qui se tient à la porte des Allemands à la fin juin. Mais il y a énormément, je peux pas les citer tous. Dernièrement, je suis allé au salon de Longwy. Il y en a un qui se tient également à Sierck, etc. Donc il y a énormément de salons littéraires dans lesquels on trouve ces auteurs lorrains.
Bah, vous avez pas le temps de vous ennuyer, j'ai l'impression, là, entre les corrections, les lectures, les relectures, les salons, les dédicaces, les rencontres.
Non, d'autant que je m'occupe encore de deux autres prix littéraires. Alors, le prix Victor Hugo, qui est organisé par la DIL.
Oui.
Prix qui est décerné à des auteurs lorrains, donc, au moment de ce salon. Et je m'occupe également, donc, c'est en liaison avec les Imaginales à Épinal, d'un prix qui s'appelle le prix Une autre terre. Et qui décerne un prix à un auteur de science-fiction qui traite de problèmes liés à l'environnement, dans un sens très large. Donc là, ça dépasse largement le cadre lorrain. Donc c'est un collectif de 5 ou 6 personnes qui se réunit une fois dans l'année. Et c'est un prix qui est décerné par des lecteurs. C'est-à-dire que on sélectionne, donc on va faire ça d'ailleurs le 14 novembre à Paris. Ça n'a rien d'une manifestation parisienne, hein, mais les personnes qui font partie de ce comité d'organisation vivent un peu aux quatre coins du monde. Donc on se retrouve à Paris, on a lu 15 ou 20 ouvrages dans l'année, et on en sélectionne 3 qui seront ensuite soumis à des lecteurs qui se réuniront à Paris, donc généralement ça se fait fin mars, donc des lecteurs lambda qui ne sont pas forcément liés au milieu d'édition, et qui sélectionneront donc un ouvrage parmi ces 3, et le prix est décerné aux Imaginales d'Épinal.
Raymond Hiss, merci pour votre participation à ce marque-page. Alors, j'ai envie de vous faire une proposition, c'est que vous reveniez dans ce magazine Marque-Page avec des auteurs de fantasy ou de science-fiction qui viendraient parler d'un genre sur l'antenne de RCN, qui n'est pas un genre mineur, bien que probablement toute une série de littérature considère ces genres comme mineurs, mais qui pourrait intéresser évidemment nos auditrices et nos auditeurs.
Oui, tout à fait, bien sûr, c'est parfaitement possible. Hein,